à Washington.
Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition de 17h30 temps universel du lundi 30 décembre 2019. Abdourahmane Dia à la présentation, voici les titres. Les Bissau-Guinéens attendent dans le calme les résultats du second tour de la présidentielle. Au Soudan, un tribunal a condamné à la peine capitale 27 membres des services de renseignement pour avoir torturé à mort un manifestant. En Somalie, le bilan de l'attentat du week-end à Mogadiscio est passé à 81 morts. Les États-Unis ont annoncé des frappes visant les Chebabs. En Afghanistan, les talibans disent ne pas avoir l'intention d'observer un cessez-le-feu. Ne ratez pas les informations sur l'actualité économique et les sports, mais tout d'abord le journal. La Guinée-Bissau attend dans le calme les résultats du second tour de l'élection présidentielle au lendemain d'un vote salué par la commission électorale comme régulier malgré les accusations de fraude de l'opposition. On fait le point avec John Linden.
Selon la Commission électorale nationale, les résultats devraient être connus mercredi, jour du nouvel an. La compilation et le décompte des voix entamés dès la fermeture des bureaux de vote dimanche soir se poursuivaient ce lundi. À Bissau, le calme régnait dans les états-majors de campagne des deux candidats, le chef du PAIGC, parti majoritaire au Parlement, Domingues Simoes Pereira, et un dissident de cette formation, Oumarou Sissoko Embalo. Aucun des deux camps n'a pour l'heure revendiqué la victoire. Dans une déclaration publiée tard dimanche, le groupe des organisations de la société civile, une cellule locale de surveillance du scrutin, a estimé que le vote a bien démarré, s'est bien déroulé et s'est terminé sans incident. La participation au scrutin de dimanche a été élevée selon la CNE, qui n'a pas cependant donné les chiffres. Elle était de 73% au premier tour. Toutefois, l'attitude des candidats après la proclamation des résultats reste une inconnue et une source d'inquiétude.
Au Libéria, un collectif d'associations de la société civile et l'opposition ont reporté la grande manifestation prévue ce lundi pour réclamer une amélioration des conditions de vie au gouvernement. Le rassemblement est maintenant fixé au 6 janvier. L'opposition avait maintenu jusqu'à hier soir son appel à manifester malgré l'interdiction décrétée par le gouvernement, faisant craindre des violences si le rassemblement avait lieu. Ce matin, les rues de la capitale étaient inhabituellement calmes et la présence des forces de l'ordre était très visible. En RDC, 18 civils ont été tués dans la nuit de dimanche à lundi dans une attaque du groupe des forces démocratiques alliées à Beni dans l'est du pays. Selon Donat Kibwana, administrateur du territoire de Beni, il y a eu incursion des ADF à Apetina Sana dans la nuit de dimanche à lundi. Ces ADF ont tué à l'arme blanche 18 civils. Depuis le lancement le 30 octobre des opérations militaires contre les fiefs de l'ADF, ils ont tué plus de 200 civils selon un décompte d'organisations locales de la société civile. En Somalie, le bilan de l'attentat de Mogadiscio samedi s'est alourdi ce lundi à 81 morts, selon le ministère somalien de l'information. Ceci alors que les États-Unis ont annoncé avoir mené des frappes visant les Chebab. Les précisions avec Irénée Hermanoumbo.
Ces frappes américaines qui ont tué 4 terroristes selon Washington interviennent au lendemain de l'attaque meurtrière dont le bilan continue de s'alourdir. 2 autres personnes ont succombé à leurs blessures. L'une d'entre elles figurait parmi les blessés graves qui ont été transportés en Turquie hier et une autre victime est morte dans un des hôpitaux de Mogadiscio, a déclaré le porte-parole du ministère de l'Information, Ismaël Mouktar. Il a précisé qu'une dizaine de personnes étaient encore portées disparues. L'attentat n'a pas encore été revendiqué. Mais le président somalien Mohamed Abdullahi Mohamed accuse les islamistes Chebab. Les Chebab ne revendiquent généralement pas les attentats, faisant trop de victimes parmi la population civile, de peur de perdre le soutien dont ils jouissent encore auprès de certains Somaliens. Ils ont juré la perte du gouvernement somalien, soutenu par la communauté internationale et les 20 000 hommes de la force de l'Union africaine en Somalie, AMISOM. Chassés de Mogadiscio en 2011, ils ont perdu l'essentiel de leur bastion, mais contrôlent toujours de vastes zones rurales.
Un tribunal soudanais a condamné ce lundi à la peine capitale 27 membres des services de renseignement reconnus coupables d'avoir torturé à mort un manifestant au début de l'année. Nathalie Barge.
Des dizaines de manifestants s'étaient rassemblés devant le tribunal d'Omdurman, brandissant des portraits de la victime, Ahmed Al-Kir, un enseignant de l'état de Kassala. Lors de l'audience, lorsque le juge a demandé au frère de la victime s'il était prêt à pardonner aux accusés, celui-ci a répondu qu'il demandait la peine de mort. Ahmed Al-Khir avait été arrêté le 31 janvier dans une localité de Kassala, puis conduit dans les locaux du service des renseignements généraux, a indiqué le juge. La mort de la victime, accusée d'avoir participé à l'organisation de manifestations antigouvernementales, avait été annoncée le 2 février. La défense dispose de 2 semaines pour faire appel. Au moins 177 personnes ont été tuées dans la répression du mouvement, selon Amnesty International.
Au Mozambique, le chef du principal parti d'opposition a catégoriquement nié toute implication dans une récente vague d'attaques visant des véhicules qui a fait une dizaine de morts dans le centre du pays. Nous démentons toute participation aux attaques survenues dans le centre et répétons que nos forces sont consignées dans leur base dans l'attente de leur démobilisation, a assuré le chef de la RENAMO Ossoufo Momad. L'armée algérienne affirme avoir déjoué un dangereux complot contre ses institutions en 2019. Le chef d'état-major de l'armée par intérim, le général Saïd Chengria, l'a dit lors de sa première prise de parole publique après la mort du général Ahmed Gaïd Salah. Selon le nouveau patron de l'armée, ce complot visait la stabilité de l'Algérie et les fondements de l'État. Le général Chengria fait référence aux revendications du mouvement de contestation au Hirak. La présidence turque a transmis ce lundi au Parlement pour examen une motion autorisant le déploiement de militaires en Libye pour y soutenir le gouvernement de Tripoli. Cette première étape sera suivie jeudi d'une session extraordinaire à l'hémicycle pour un débat. Cette initiative s'inscrit dans le sillage d'un accord de coopération militaire et sécuritaire conclu fin novembre entre Erdogan et le chef du gouvernement d'Union nationale Fayez al-Sarraj qui fait face à une offensive des forces du maréchal Khalifa Haftar sur Tripoli.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Une simple réduction de la violence, pas plus. Leur message est clair, les talibans n'envisagent pas de cesser le feu en Afghanistan dans leurs négociations avec les États-Unis. Bagasikoura.
Dans un communiqué, les insurgés soulignent que le fait est que l'émirat islamique d'Afghanistan, l'EIA, n'a pas de projet de cesser le feu. Les discussions entre les deux parties sur un retrait des forces américaines sont actuellement suspendues depuis un attentat des talibans contre une base militaire au début décembre. Les Américains ont demandé une réduction de la violence qui est à l'étude par l'EIA, poursuit le communiqué qui explique que des médias ont diffusé des informations fausses sur un cessez-le-feu par l'IEA. Les États-Unis et les talibans discutent depuis plus d'un an d'un accord sur le retrait des forces américaines d'Afghanistan en échange de garanties sécuritaires des insurgés. Ces discussions, incluant un engagement sur une réduction de la violence, étaient sur le point d'aboutir en septembre quand elles ont été suspendues par le président Donald Trump après un attentat des insurgés ayant tué 2 soldats américains. Elles ont repris avant d'être de nouveau stoppées après une attaque contre la base militaire de Bagram tenue par les forces américaines. Les talibans ont revendiqué une autre attaque lundi dernier en affirmant qu'elle avait tué un militaire américain.
Le leader nord-coréen Kim Jong-un a indiqué aux principaux dirigeants du Parti des travailleurs au pouvoir que son pays connaissait une grave situation économique. Il a appelé à la mise en place de mesures d'urgence afin d'y remédier. Le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo va se rendre vendredi en Ukraine, pays au cœur d'un scandale qui vaut au président Donald Trump une mise en accusation au Congrès. Le secrétaire d'État s'entretiendra notamment avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky. C'est le plus haut responsable américain à se rendre en Ukraine depuis qu'a éclaté en septembre l'affaire ukrainienne. Mike Pompeo se rendra ensuite au Bélarus, au Kazakhstan, en Ouzbékistan et à Chypre jusqu'au 7 janvier, a annoncé le département d'État dans un communiqué ce lundi. Au moins 25 combattants irakiens ont été tués à la frontière irako-syrienne dans des raids de représailles américains contre une faction proche de l'Iran. Ces frappes, mal vues par beaucoup d'Irakiens, ont relancé la campagne contre la présence américaine dans le pays. Face à la multiplication des attaques visant leurs intérêts en Irak, les États-Unis avaient récemment promis une réponse ferme. Cette réponse est intervenue donc dimanche soir, quand des avions américains ont frappé des bases des brigades du Hezbollah. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique, c'est dans la Minute Éco, présentée ce soir par Nanit Talani.
La justice camerounaise a annulé la procédure d'attribution du terminal à conteneurs du port de Douala-Bonabiri au Swiss Terminal Investment. Cette décision judiciaire fait suite à une plainte de Douala International Terminal. Cette filiale du groupe Bolloré dénonce l'irrégularité du procédure ayant conduit en 2019 à la désignation de la société suisse comme son successeur à l'issue de l'appel international à manifestation d'intérêt. L'autorité portuaire explique que cette décision, qui n'attribue pas un nouveau concessionnaire, conforte le port autonome de Douala dans la reprise des activités de son terminal. L'Ouganda prévoit d'emprunter près de 2 milliards de dollars à des prêteurs externes pour financer une partie de son budget 2020-2021 après un déficit causé par des retards dans la mise en œuvre de certaines mesures fiscales. Ses recettes fiscales n'ont pas atteint 9% en 2019. D'après un document du ministère des Finances, les fonds seront empruntés sous forme de crédits concessionnels et non concessionnels. Le texte n'indique pas à qui l'argent sera emprunté, mais ces dernières années, la Chine est devenue l'un des grands principaux prêteurs extérieurs de l'Ouganda. Pour terminer, le gouvernement soudanais a adopté son budget pour 2020. D'après le ministre des Finances et de l'Économie, Ibrahim Al-Badawi, les recettes s'élèvent à 27,3% contre 30,8% des dépenses, soit une légère augmentation du déficit budgétaire de 3,5% par rapport à 2019. C'est le premier budget approuvé par les autorités de transition mises en place à la suite de négociations entre l'armée et les représentants d'un mouvement de contestation inédit qui a chassé du pouvoir Omar el-Béchir en avril.
Voilà, j'accueille à présent Eric Manirakiza. Eric, bonsoir.
Bonsoir Abdou.
On démarre cette page des sports avec le Niger qui a organisé hier le premier marathon de son histoire.
Une initiative pour la paix au Sahel avec un prestigieux parrain, le Marocain Lassane Assal. 10 fois vainqueur du marathon des sables, l'une des courses les plus difficiles au monde. Cet événement qui comptait également un semi-marathon et 10 kilomètres des courses juniors et handicapés a rassemblé environ 800 participants venus d'Agadez, de tout le Niger, mais aussi du Togo, du Bénin, de Côte d'Ivoire, du Maroc et de France. J'ai choisi le Niger pour courir mon premier marathon car j'adore l'Afrique, le désert et ses immensités magnifiques, confie Nadia Maslam, 41 ans, une Française venue d'Avignon. Après 2 éditions en 2014 et 2016 des semi-marathons, le grand marathon du Ténéré propose cette année la distance de 42 km.
Du football en Afrique, le Oroya AC de la Guinée a battu le Djoliba Athletic Club de Bamako.
Tout à fait, c'était ce dimanche 29 décembre 2019 au stade du 28 septembre à Conakry. La rencontre s'est soldée par le score final d'un but à 0. Il s'agit d'un match comptant pour la troisième journée de la phase de poule de la Coupe de la Confédération saison 2019-2020 pour le coach du Djoliba AC de Bamako. Rien n'est perdu, même si le match retour contre le Oroya, prévu pour le 12 janvier 2020, s'annonce décisive pour les deux clubs.
Les joueurs, les dirigeants, les fans, les rouges, tout le monde avait besoin d'une victoire. C'est un championnat, c'est les points qui vont nous déterminer après. C'est pas le beau jeu que nous allons prendre. C'est beaucoup de problèmes que nous avons pu régler avant ce match. Les hommes, il faut pouvoir les haranguer par moment. Il faut pouvoir aussi être un peu dur. On a pu dominer et l'intérêt supérieur du Djoliba a été défendu.
Voilà, Kwadio Georges, au micro d'Osiaka Traoré, notre correspondant à Bamako.
Et puis Première Ligue en Angleterre, Liverpool finit l'année en beauté, Arsenal déprime tandis que Man City se ressaisit.
Un Liverpool conquérant qui a remporté son 18e match sur 19 en championnat d'Angleterre, 1-0 contre Wolverhampton dimanche à Anfield Road, bien aidé par l'arbitrage vidéo. Cela fait maintenant 50 rencontres que les Reds n'ont plus connu la défaite à domicile. Un manque de confiance, Arsenal est retombé dans ses travers contre Chelsea malgré l'arrivée de Mikel Arteta. Le principal problème des Gunners semble psychologique. Enfin, Manchester City s'est imposé devant Sheffield United. La formation de Pep Guardiola reste troisième, un point derrière Leicester, mais à 14 longueurs déjà de Liverpool.
Merci Eric.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, Abdourahmane Dia toujours en votre compagnie. À présent, les dossiers du jour. En RDC, précisément dans le sud de Kivu, la population de l'espace Fizi Itombwe réclame justice dans les massacres perpétrés il y a 21 ans à Makobola et dans le sud Kivu en général. Par ailleurs, une réflexion a été lancée pour la mise en place d'un centre panafricain de transformation des conflits au cours de la commémoration donc du 21e anniversaire des massacres de Makobola. On fait le point avec Ernest Mouero sur place.
C'est pendant la commémoration du 21e massacre des Makobola que ces appels et réflexions ont été lancés. Les participants, en majorité habillés en noir en signe de deuil, sont venus des quatre coins du monde pour se remémorer ces moments douloureux. Pour Philippe Ounji, notable des Makobola vivant à Kinshasa, il s'agit de rompre le silence autour de ces massacres.
Pendant que les gens préparaient les fêtes, les forces du mal ont envahi le peuple dans les églises, dans le champ et dans les différentes réunions. 21 ans après, nous avions pensé qu'il était important de se souvenir de ceux-là qui sont tombés, afin que maintenant ensemble, nous puissions projeter l'avenir, notamment en travaillant sur la transformation des conflits, en vue d'effacer les tristes mémoires de l'histoire au profit des efforts de développement.
Pendant la commémoration, plusieurs délégations ont pris la parole pour condamner la mort de plus de 700 personnes à Makobola et proposer des mécanismes de prévention des massacres. Le professeur Obedi Nyamanjoku, qui coordonne la cérémonie, a insisté sur la poursuite des bourreaux et la réparation des victimes.
C'est un devoir de mémoire qu'on reconnaisse qu'il y a des gens qui ont été tués ici et que la justice soit rendue. C'est que nous ne voudrions pas que en fait, ces massacres puissent se perpétuer. Nous voulons une cohabitation pacifique avec toutes les communautés. Mais il n'y aura pas cette cohabitation pacifique sans que la justice soit rendue. Et il n'y aura pas de vraie justice si la vérité n'est pas dite.
Une rescapée du massacre, Janine Toumainia, regrette d'avoir perdu des êtres chers et témoigne des difficultés au quotidien pour survenir aux besoins des enfants survivants des massacres.
Parmi nous, il y a beaucoup de veuves et orphelins et nous vivons une vie sans espoir. Personnellement, j'ai 6 enfants. Chacun se débrouille comme il peut depuis que je suis abandonnée à moi-même. Ces enfants n'ont pas pu faire des études assez pénibles qu'on nous aide à élever et à encadrer nos pauvres orphelins.
À l'occasion, l'évêque du diocèse d'Ouvira a rappelé à tout un chacun l'amour du prochain recommandé par les Christ. Et le ministre provincial de l'Intérieur a déposé une gerbe de fleurs au mausolée construit en mémoire des victimes des massacres. Le ministre Lwabanjilwa Singabo.
Nous traînons beaucoup de plaies qui ne sont pas soignées, qui peuvent donner l'impression d'être guéries alors qu'elles ne le sont pas, tout simplement puisqu'il y a des étapes qui ont été escamotées. Il faut continuer à agir et chacun dans les limites de ses pouvoirs.
Des séries de témoignages pour la plupart à visage masqué et voix déformées ont cristallisé l'atmosphère, rappelant des atrocités jusqu'alors impunies commises au moment de la rébellion du Rassemblement Congolais pour la Démocratie RCD, encadrées selon les dires de témoins par l'armée rwandaise. De Makobola à plus de 100 km de Bukavu, Ernest Mouero pour VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Au Sénégal, le projet de loi criminalisant les actes de viol et de pédophilie devait être soumis aujourd'hui aux députés. Il prévoit un durcissement des condamnations qui pourront aller jusqu'à l'emprisonnement à perpétuité. Ce projet de loi répond à un besoin urgent de freiner les violences faites aux femmes qui ne cessent de croître dans le pays, nous dit notre correspondant à Dakar, Seydina Abagué.
Dans les transports en commun, dans les foyers et dans les espaces publics, les femmes subissent toutes sortes de violences. Généralement, elles gardent le silence pour éviter le regard de la société. Certaines se tournent quand même vers des structures spécialisées qui portent anonymement leur voix et leur combat. Na Maïmouna Djité, membre de l'Observatoire des relations de genre au Sénégal.
Tu sors, tu dis à un de tes parents, j'ai été tabassée par mon mari, et te dit, Daloul Ngamoun, vas-y, tu vas gérer ton ménage, etc. Alors qu'ils ne savent pas ce que toi tu endures dans cette vie de couple. Je pense que c'est ça qui pousse beaucoup de femmes à avoir peur de s'exprimer, de dire ce qu'elles pensent. Et que la société également n'a pas donné la place qu'il faut à la femme.
C'est donc le modèle de la société sénégalaise qui explique en partie cette violence subie par les femmes, comme l'indique le professeur Djibi Diakhaté, sociologue.
En fait, nous sommes dans une société où on a mis essentiellement l'accent sur le patriarcat. Le patriarcat, c'est une communauté dans laquelle les hommes ont plus de privilèges que les femmes. Si vous regardez bien, le patriarcat est essentiellement renforcé par l'acceptation d'un certain nombre de dispositions qui renvoient au culte. Nous avons par exemple la religion musulmane, la religion chrétienne et un certain nombre de traditions animistes et païennes qui mettent l'accent sur l'idée que l'homme doit prendre le devant par rapport à la femme. Maintenant, lorsque ces choses sont intériorisées, les gens ont tendance à développer des attitudes et des comportements qui sont de nature à montrer des fois de la façon la plus brutale qui soit l'autorité de l'homme sur la femme.
Les femmes sont ainsi victimes de beaucoup d'abus, comme le constate Na Maïmouna Djité de l'Observatoire des relations de genre au Sénégal.
Des fois même dans la circulation, dans les bus tata, etc., tu vois des femmes qui sont côtoyées par des hommes, qui font des attouchements, etc. On le vit tous les jours. En pleine journée, tu vois des hommes qui violent des femmes. Donc, c'est des choses, des pratiques qui continuent à exister dans notre société. Et je pense qu'il est temps maintenant d'arrêter ces genres de pratiques.
Pour que ces violences cessent, il faut que les femmes puissent faire face. Et cela passe nécessairement par une émancipation, d'après Djibi Diakhaté, professeur de sociologie.
La femme a droit à des droits et ses droits doivent être respectés. Ces droits sont inaliénables, ils sont intangibles, on doit respecter le droit de la femme. Donc il faut un travail de sensibilisation à l'endroit des hommes, mais aussi un travail de déconstruction et de sensibilisation à l'endroit des femmes. Il faut voir que beaucoup de femmes ont tendance à accepter leur sort, à se dire qu'il en est ainsi et qu'on ne peut pas changer l'ordre des choses. Alors si on tombe dans cette sorte de fatalité, tout se passe comme si le sort est déjà jeté et qu'on ne peut absolument rien faire pour changer la tendance. Donc il y a un travail de déconstruction au niveau mental, amener certaines femmes à effectuer ce que l'on peut appeler une insurrection mentale.
Les associations, mouvements et structures spécialisées dans l'appui aux femmes vulnérables font souvent des actes pour dénoncer les abus basés sur le genre. Sur la même lancée, le gouvernement du Sénégal compte sur le durcissement des sanctions pour faire baisser les violences faites aux femmes. Le viol et la pédophilie, autrefois considérés comme des délits avec des peines de 3 ans d'emprisonnement, seront considérés comme des crimes avec de lourdes peines pouvant aller jusqu'à la perpétuité. À Dakar, Seydina Abagué pour VOA Afrique.
Dans À votre avis ce soir sur VOA Afrique, les poursuites engagées contre l'ancien président de l'Assemblée nationale ivoirienne, Guillaume Soro, candidat à la présidentielle de 2020. La justice de son pays l'accuse de préparer une insurrection civile et militaire pour s'emparer du pouvoir, des accusations rejetées par Soro qui promet d'organiser de l'étranger la résistance, non pas armée, mais politique, précise-t-il. Qu'est-ce que tout cela augure pour les Ivoiriens? Donnez votre avis sur cette question en nous laissant votre numéro et vos commentaires sur notre page Facebook ou appelez-nous au 001-202-205-2633 à partir de 18h05 temps universel ce soir sur VOA Afrique.
Au Bénin, les activistes des droits de l'homme militent de plus en plus pour que l'accouchement humanisé entre dans les habitudes du personnel soignant. Les femmes enceintes ainsi que leurs proches se plaignent continuellement de l'accueil dans les hôpitaux publics, du mauvais traitement qui serait, selon eux, les premiers facteurs à la base de la mortalité maternelle et infantile dans le pays. De Cotonou, le reportage de notre correspondante Ginette Fleur-Adondi.
Le taux de mortalité maternelle au Bénin est resté pratiquement le même entre 2006 et 2018. Il y avait 397 décès pour 100 000 naissances vivantes en 2006 et 391 décès pour le même nombre de naissances vivantes en 2018, selon un rapport sur la démographie et la santé au Bénin. C'est que les conditions dans les hôpitaux n'ont pas vraiment évolué. Certaines femmes ayant déjà fait l'expérience dans les hôpitaux publics en part.
Les sages-femmes ne sont pas trop accueillantes. Elles sont un peu énervée, c'est pour crier sur nous. Et des fois, même on a peur de venir à l'hôpital.
La sage-femme qui garde pendant 24 heures est obligée de continuer tant qu'il n'y a pas une remplaçante. Elle est épuisée, elle est fatiguée.
L'accouchement par voix basse avec les cris des sages-femmes et tout, dégagez monsieur, c'est ça. Ce n'est pas de l'accouchement humanisé.
Violence verbale et sociale à l'encontre des femmes enceintes, éloignement de la famille, qu'on interdit d'accès à la salle d'accouchement. Les cuisses de la femme écartées de force rançonnent. Vente illicite de médicaments, des ordonnances exorbitantes. Ce sont des pratiques courantes contre lesquelles l'accouchement humanisé voudrait lutter par des sensibilisations, des formations, des émissions radio, des jeux de rôle. Annick Nounourou, sage-femme juriste, activiste des droits humains en milieu sanitaire, pense que pour la crédibilité du système sanitaire, il est important de promouvoir ce type d'accouchement et pour cause.
Il s'agit d'un accouchement fondé sur le respect des droits humains. Quand on parle de respect des droits humains, mais en salle de naissance, c'est le respect des droits et libertés individuelles de la parturiente, c'est-à-dire de la femme qui en travaille. La première liberté, c'est l'accès à la personne de son choix durant tout le travail d'accouchement et pendant même l'accouchement et après l'accouchement.
Ce premier point de l'accouchement humanisé semble être une équation difficile à résoudre dans un hôpital public où plusieurs femmes enceintes se retrouvent nues dans une même salle. Dans le privé, cela relève d'une forte négociation et d'une faveur accordée à un homme qui attend d'accueillir son premier enfant. Sinon, le principe est formellement interdit. Les sages-femmes montrées du doigt se défendent. Elles disent accomplir leur devoir en toute humanité dans le respect des vies qui leur sont confiées.
Quand ça tourne mal, automatique, la sage-femme qui a mal fait le travail. Même les gynécologues aussi disent que c'est tout le monde. On juge la sage-femme qu'elle est mauvaise, mais quand ça va, il n'y a pas de problème.
Quand tu es sage-femme, tu dois donner la joie aux autres. Tu oublies ta famille, tu oublies tout le monde, le mari. Ça se fait d'ailleurs qu'on a eu tellement de problèmes dans nos foyers. On n'arrive pas à bien s'occuper de nos maris. Et puis on est encore mal vu par la population. Et au finish, qu'est-ce qu'on ramasse comme bénéfice? C'est le mal de dos. Et combien on gagne comme salaire? Un salaire qui est misérable.
Accouchement humanisé ou pas, les problèmes resteront les mêmes si les femmes enceintes ne font pas un effort pour suivre religieusement les prescriptions médicales ou si l'État ne fait pas un effort dans l'équipement des hôpitaux publics, pense pour sa part Dr. Christiane Aguemont, gynécologue obstétricienne au CNHU de Cotonou.
Je ne pense pas que le problème soit lié au personnel soignant. Il faut que la population essaie de faire la part des choses. Quand la malade arrive à l'hôpital. Vous savez que dans nos hôpitaux, on n'est pas suffisamment équipé. La plupart des décès que nous recevons, ce sont les malades qui viennent des centres périphériques.
De Cotonou, je n'ai plus à donner pour VOA Afrique.
Washington, VOA Afrique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Crise sur le programme nucléaire nord-coréen, la Maison-Blanche dit qu'elle envisagera des moyens autres que la diplomatie pour répondre à la Corée du Nord si celle-ci attise de nouveau la tension et met à exécution sa menace d'adresser à Washington un cadeau de Noël non spécifié. Un reportage d'Arash Arab Sadi avec le récit de Timothée Donangmaï.
Un cadeau surprise aux États-Unis pour Noël, c'est ce qu'a récemment promis Kim Jong-un. De l'avis des experts, cette vague menace traduit la frustration du leader nord-coréen par rapport à l'impasse dans les négociations sur le nucléaire de son pays. Pour sa part, le président Donald Trump semble s'amuser de la menace nord-coréenne, spéculant sur la nature du cadeau surprise promis par Kim Jong-un.
Voyons, peut-être que ce sera un beau présent. Peut-être qu'il m'enverra un beau vase au lieu d'un essai de missile. Je pourrais bien recevoir un vase de sa part. On ne sait jamais.
Des cadeaux pas si beaux que cela pourraient aller d'essais de missiles de longue portée ou d'essais nucléaires souterrains au lancement d'un satellite dans l'espace, avertissent les spécialistes. Dimanche, le conseiller à la sécurité nationale de la Maison-Blanche, l'ambassadeur Robert O'Brien, a loué la diplomatie personnelle du président Trump en direction de son homologue nord-coréen.
Kim Jong-un
Kim Jong-un a promis de dénucléariser la péninsule coréenne. Nous voulons qu'il tienne cet engagement. Sinon, nous avons d'autres moyens en tant qu'États-Unis et nous en ferons usage si nécessaire.
Toutefois, le prédécesseur d'O'Brien, l'ambassadeur John Bolton, fait partie de ceux qui estiment qu'il n'y a aucune probabilité que la Corée du Nord procède à sa dénucléarisation. Qu'à cela ne tienne, l'ambassadeur O'Brien affirme que le président Trump a donné à Kim Jong-un diverses options durant les pourparlers entre les deux pays. La voie glorieuse vers un destin similaire à celle de la Corée du Sud ou celle qui mènera la Corée du Nord vers les sanctions et l'isolement vis-à-vis de la communauté internationale. La Corée du Nord a conduit 13 séries d'essais de missiles à courte portée et de pièces d'artillerie en 2019, des actes dont le président Donald Trump a minimisé la portée.
Voilà, donc c'est avec ce reportage qu'on se quitte. À la mise en onde, Joselle Morissin, à la console, Nick Evanov, présentation, Abdourahman Dia. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook et sur notre site voafrique.com pour l'actualité 24 heures sur 24. Au revoir.
VOA Afrique, les infos.